Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Vous ne pouvez pas faire la révolution. On ne pouvait pas changer le mode de production sans évincer l'État des classes dirigeantes. Parce qu'un État, c'est une dictature. L'État de la bourgeoisie était une dictature de la bourgeoisie et il s'agissait d'établir la dictature du prolétariat. La révolution russe crée un ébranlement considérable dans le monde. Non seulement dans les partis social-démocrates, qu'est-ce qu'on fait de ce socialisme qui a tout abdiqué et de cette deuxième internationale qui a consacré son impuissance et sa trahison des intérêts sociaux et politiques de ses mandants en adhérant à la guerre. On ne peut plus continuer avec ces partis aux mains rouges du sang des paysans et de la surexploitation des ouvriers.
Si dès le 19e siècle, il y a des socialistes qui ne prônent pas la révolution et qui collaborent avec la grande bourgeoisie, c'est parce que les riches ont toujours eu les moyens de corrompre et d'acheter des consciences. Et comme on l'a vu aux précédents épisodes de cette série sur le congrès de Tours de 1920, aux racines de la division des socialistes français, il y avait la corruption d'une partie des élites socialistes et syndicales. Salut, c'est JBD, c'est La Voix Off, et bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de cette série autour de l'histoire du congrès de Tours de 1920, congrès qui voit la scission de la SFIO, acte de naissance de ce qui deviendra le Parti communiste français. Pour raconter cette histoire et ses conséquences sur les décennies suivantes, on retrouve aujourd'hui l'historienne Annie Lacroix-Riss, professeure émérite à l'Université Paris 7. Annie Lacroix-Riss, bonjour.
Bonjour.
Créée en 1905, la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, le parti socialiste de cette époque où les socialistes n'avaient pas peur de prononcer le mot « ouvrier », la SFIO rassemblait divers petits partis socialistes déjà très différents les uns des autres. Chez les socialistes, il y avait déjà de la vraie gauche et de la droite molle. Les motifs de division entre militants existent dès la création des pensées socialistes du 19e siècle. Conflit entre socialistes révolutionnaires et socialistes réformistes, qui eux ne veulent pas faire la révolution et collaborent avec la grande bourgeoisie, oligarchie financière qui a le pouvoir de séduire et de corrompre bien des politiques et des syndicalistes se prétendant pourtant de gauche. Le point de rupture entre socialistes, c'est la première grande boucherie mondiale de 14-18 pendant laquelle des réformistes se mettent au service du patronat et de ses industries de guerre. Cette trahison qui ne passe pas chez nombre de socialistes, certains l'appelleront l'union sacrée. En 1917, en Russie, les bolcheviks ont démarré une révolution qui, en 1920, semble avoir réussi. Devant l'échec et la corruption de la Deuxième Internationale, les bolcheviks créent la Troisième Internationale qu'ils entendent contrôler et diriger depuis Moscou. Pour adhérer à cette Troisième Internationale, les partis communistes du monde entier doivent adopter une série de 21 conditions très strictes énoncées par les bolcheviks. 21 conditions destinées à éviter l'adhésion de socialistes collaborateurs des capitalistes. Et c'est ce débat qui fait éclater la SFIO au congrès de Tours de 1920. Division entre une majorité de militants qui suivent les bolcheviks russes et une minorité de militants qui refusent le diktat de Moscou. Les socialistes majoritaires créeront le Parti communiste français et conserveront le journal L'Humanité. Les minoritaires garderont la SFIO, la vieille maison, comme disait Léon Blum. De 1917 à 1922, année qui voit la création de l'URSS, 5 années de guerre civile russe font entre 8 à 20 millions de morts. Réussir la révolution n'a pas été facile pour les bolcheviks qui affrontent les armées du tsar, armées de Russes blancs, appuyées dès 1918 par l'agression d'une quinzaine de puissances occidentales. «
à partir de janvier 1918, elle est soumise à l'agression armée de 14 pays, dont toutes les grandes puissances impérialistes, toutes, y compris les États-Unis, un peu discrètement, mais pratiquement de manière fort efficace aussi, le Japon, l'Angleterre, la France.
Une condition des soviétiques pour adhérer à leur troisième internationale sont évidemment très strictes, car destinées à écarter la candidature des socialistes collaborateurs des capitalistes. Mais on peut comprendre la rigueur de ces 21 conditions quand on voit ce qu'a coûté la révolution russe. Et quand on voit qu'en face, les impérialismes capitalistes occidentaux n'auront de cesse de faire la guerre à l'URSS jusqu'au bout, jusqu'en 1991.
Une rupture incontestable qui est requise par les bolcheviks devenus les communistes. Une rupture considérable, mais je dirais, qui correspond aussi à une rupture considérable de l'autre côté. Parce que cette guerre impérialiste qui a vu s'affronter les impérialistes pour le repartage du monde est aussi une guerre impérialiste, d'abord, qui débouche sur ce nouveau repartage qui va donner lieu à un compromis, ma foi, mené malgré toutes ces contradictions. Et quelles contradictions, et avec quel paradoxe jusqu'à la guerre suivante, mais aussi une guerre qui débouche sur un accord interimpérialiste remarquable. C'est-à-dire que on met l'accent sur la stratégie des faibles, la stratégie qui va être celle de la création des partis communistes, mais on ne nous parle jamais de la stratégie unifiée de l'impérialisme, qui se manifeste notamment dans ce qui a été la grande affaire de l'après-première guerre mondiale et qui a marqué toute la période suivante et avec quelle intensité dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire l'accord total pour liquider de la carte le rebattage auquel avaient procédé les communistes, sachant que dans la chaîne impérialiste, l'éclatement des contradictions avait conduit, en effet, comme le pensait possible Lénine, à la rupture d'un maillon, le fameux maillon faible. Eh bien, le maillon faible, ça a été la Russie. Il y a deux données dans les révolutions. Il y a évidemment le camp des dominants, et il y a aussi la réaction du camp des dominés. Or, la grande rupture du XXe siècle, rupture qui, je dois le dire, je le constate tous les jours, alors que le communisme est présenté comme moribond, etc., le cas qu'on fait de lui montre bien que l'ambulance n'est pas si morte qu'on le dit, et surtout, ce qui apparaît à la lecture du XXe siècle, c'est que le communisme est devenu évidemment une question centrale, parce que c'est en Russie, en effet, que les conditions de gestion de la guerre ont conduit à des craquements que les classes dirigeantes n'ont pas pu arrêter. Et pourtant, elles y ont mis le paquet avec leur agression sans déclaration de guerre, une agression qui a duré pendant 3 ans et qui a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale en Russie et qui a débouché d'ailleurs sur une famine effroyable de 21-22. Alors, il sort de là deux orientations. Une orientation qui, d'un côté, met l'accent sur les transformations à l'intérieur de l'impérialisme, et d'autre part, qui éclaire évidemment le rôle dirigeant, et le rôle dirigeant pendant longtemps, de Moscou, c'est-à-dire du premier pays qui a ouvert la question de la révolution socialiste.
En 1918 se dessinent les deux blocs de la future guerre froide, le bloc communiste et le bloc des impérialismes occidentaux, désormais dirigés par des capitalistes états-uniens. La première grande boucherie mondiale a permis aux USA de supplanter les vieux empires européens, hégémonie confirmée après la boucherie mondiale suivante. Près de 30 millions de morts chez les soviétiques. Pour la première, les USA ne sont entrés en guerre qu'en 1917. À l'armistice de 1918, ils jouent les arbitres, mais ne ratifieront pas le traité de Versailles qui humilie l'Allemagne, ferment de la guerre mondiale suivante. En 1918, en évoquant la paix, le président Wilson énonce ses 14 points qui établissent l'hégémonie mondiale des États-Unis. 14 points dont le libre-échange, l'abolition des droits de douane, ouverture des marchés de capitaux et de marchandises, le libre accès à la mer, la démocratie, bien sûr, l'abolition de la diplomatie secrète, le désarmement, la restitution des souverainetés sur les terres occupées à la suite de victoires militaires, comme l'Alsace-Lorraine pour la France, le droit à l'autodétermination des peuples, etc. etc.
En 1918, la puissance considérable acquise par l'impérialisme américain, qui sort de la Première Guerre mondiale, le principal vainqueur. Certes, il fera encore mieux avec la deuxième, mais il est déjà le principal vainqueur et il devient une puissance européenne. Au contraire de toutes les sottises qu'on nous raconte sur l'isolationnisme américain, c'est ça, l'isolationnisme d'États-Unis qui ont été à l'origine de tous les règlements financiers internationaux de l'entre-deux-guerres en plein isolationnisme. Bon, mais qu'est-ce qui se passe avec, par exemple, les 14 points? Que même quand j'étais, je dois dire, lycéenne, au moment où on faisait l'histoire correctement dans les lycées, on nous présentait comme quelque chose d'assez sympathique. Hein. Voilà, la liberté sur les mers, la liberté sur les fleuves, etc. Bon, c'est le programme que reprendra Roosevelt, c'est le programme de l'impérialisme américain, c'est-à-dire le programme de la porte ouverte. Ce programme qui avait été affirmé en 1899 par le secrétaire d'État Hay, un des ancêtres de Foster Dulles, enfin des frères Dulles.
Les frères Dulles étaient de richissimes États-Uniens, diplomates et aussi barbouzes. Allen Dulles, ponte des services secrets américains, dirigera la CIA pendant de nombreuses années. La CIA, qui pendant des décennies ne reculera devant aucun crime pour établir la mainmise des USA sur le monde, au prix de dizaines de millions de morts, de déstabilisation de régimes démocratiques, de soutien à d'innombrables dictatures, devenir les maîtres du monde, quitte à user de crimes, et aussi de corruption de membres des élites socialistes.
Tout pour nous, rien pour les autres. Nous avons le droit à tout. L'Europe a tout, et ben nous, nous allons aussi conquérir ce qu'a voulu l'Europe. Car en fait, les 14 points et la fameuse liberté, y compris la fameuse autodétermination des colonies, elles n'avaient pas du tout le même contenu socio-économique que la libération coloniale que promettent les jeunes partis communistes et que promet surtout l'international de Moscou aux jeunes partis communistes qui vont se constituer. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est en fait l'autodétermination des peuples, une machine de guerre contre les impérialismes européens, une machine de guerre qui va être opératoire d'emblée et qui va surtout être opératoire à partir de la Deuxième Guerre mondiale, comme l'a montré l'étude objective, l'étude sérieuse de toutes les libérations coloniales qui se sont opérées à partir de 1945 sous l'égide des États-Unis, les États-Unis s'appuyant sur les couches coloniales privilégiées, évidemment pour empêcher toute libération coloniale qui se traduirait par le contrôle national des nouveaux mouvements nationaux sur leurs propres richesses. Or ça, c'est les 14 points, y compris, je le répète, sur l'autodétermination des colonies. Ce qui fait échouer les États-Unis d'ailleurs, c'est qu'ils n'ont pas encore assez détruit l'Europe ou participer à son affaiblissement, ce qui sera au contraire le cas avec la Deuxième Guerre mondiale. C'est tout à fait autre chose dans le projet bolchevique, qui est une des, je dirais, pas la seule bien sûr, mais un des aspects majeurs de la cassure des partis social-démocrates. Parce que, et c'est naturellement une des 21 conditions, parce que ce que proposent les bolcheviques, dès leur propre révolution réalisée, et alors qu'ils se battent pour qu'elle triomphe chez eux, ce qui relève quand même de la quadrature du cercle, c'est que cette autodétermination, c'est pas la revendication bolchevique des matières premières des empires rivaux, c'est quelque chose pourtant d'essentiel dans l'embourgeoisement des partis social-démocrates, c'est-à-dire la libération des colonies. Or, j'ai évoqué tout à l'heure la corruption. Pensons à ce qu'a été la corruption coloniale des mouvements social-démocrates dans les pays impérialistes. Elle a été gigantesque. Et il faut bien comprendre d'ailleurs comment, parmi les 21 conditions, qui sont toutes des conditions délicates évidemment, mais parmi les 21 conditions, comment la lutte anticoloniale est un énorme, énorme, énorme morceau qui évidemment ne pouvait pas passer dans des partis qui avaient fondé leur adhésion au système, notamment sur la manne impérialiste qu'était la conquête coloniale. On est en 1917, 18, 20, mais il faut bien comprendre que ce sont des choses qu'il faut connaître parce que ça éclaire toute l'histoire des partis socialistes opposés à la libération nationale. On est bien placé en France pour en connaître la teneur, puisque nos guerres coloniales, jusqu'à l'extrême fin, et je pense évidemment à cette extrême fin des années 60, je ne dis pas que le colonialisme ait disparu pour autant, hein, mais nos guerres coloniales, elles ont eu le complet soutien, quelquefois un peu délicat, parce que la fidélité à l'État français et au capitalisme français était un peu délicate quand les partis socialistes et leur antenne syndicale, en l'occurrence Force ouvrière, étaient entièrement irrigués par les États-Unis et que les États-Unis, eux, ils voulaient en effet que la France déguerpille de l'ensemble de l'Empire. Hein. Voilà. Donc c'était un peu délicat. Hein. Quand on se trouvait militant, responsable socialiste et qu'on touchait d'une part de l'État et de l'autre, pour ne pas dire surtout des États-Unis, je puis dire que ça rendait les choses un petit peu compliquées. Bref, on a une social-démocratie, puisqu'on parle de la France et qu'on va parler du Congrès de Tours, qui jusqu'au bout a absolument soutenu les guerres coloniales, avec les contradictions qu'induisait, je le répète, à partir de 1945 surtout, le loyalisme à l'égard des États-Unis payeurs. Ça ne se discute pas, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance, puisque on a trouvé la parade. C'est encore d'ailleurs de la faute du Parti communiste, puisqu'il paraît que le Parti communiste, lui, il soutenait pas les mouvements nationaux et qu'il avait une position ambiguë sur la guerre d'Algérie. Revenons à nos autres moutons. La révolution bolchevique, pour reprendre un célèbre militant communiste, si je ne m'amuse, c'est Mouchon qui disait ça, voilà, dans notre atelier, en apprenant ça, on a posé les outils, enfin, la lumière qui venait de l'Est et que Brocard est aujourd'hui mes collègues spécialistes de Russie qui considèrent que la Russie, le bolchevisme, etc., c'est le summum de la barbarie. La révolution russe, la deuxième, elle crée un ébranlement considérable dans le monde. Non seulement dans les partis social-démocrates, j'allais dire à l'intérieur, mais évidemment dans l'ensemble du monde. La lutte anticoloniale, elle a été exclusivement le fait dans l'entre-deux-guerres des partis communistes, hein, et à un coût très très élevé, extrêmement élevé, car ils ont eu contre eux non seulement l'ensemble de l'appareil d'État du grand capitalisme colonial, mais l'ensemble du mouvement socialiste en ce qui concerne la France de la SFIO, et ça n'était pas une mince affaire. L'ensemble du mouvement social-démocrate est évidemment ébranlé par les lendemains de la guerre, leurs aspects contradictoires, le fait que, finalement, si on choisit le cas de la France, et c'est le cas de la quasi-totalité des pays, la grande bourgeoisie et son appareil d'État s'en sont bien sortis, se sont même plutôt renforcés, et confrontés aussi à l'aspiration de changement contradictoire, et pas majoritaire, et notamment d'ailleurs pas majoritaire en France, hein, où l'appareil d'État a tenu solidement les classes dirigées. Et donc tout ça, évidemment, met au premier plan, parce qu'on ne va pas faire ici l'histoire de la Révolution russe, met au premier plan cette règle que Lénine avait prescrite à partir de 1914. Qu'est-ce qu'on fait de ce socialisme qui a tout abdiqué et de cette deuxième internationale qui a consacré son impuissance et sa trahison des intérêts sociaux et politiques de ses mandants en adhérant à la guerre. Évidemment, à partir de 1918, alors que la Russie se bat pour la survie de la Russie soviétique. Hein, la capitale n'est plus Pétrograd, la capitale est Moscou, parce que c'est une peau de chagrin. La jeune Russie soviétique, entre 1918 et 1920, il n'y avait pas le choix pour changer de capitale, hein, parce que Pétrograd était sérieusement exposé. C'est-à-dire que c'était une peau de chagrin, la Russie soviétique. Et il faut se rendre compte que c'est en menant ce combat pour la survie de la solution bolchevique, qui a quand même donné la terre aux paysans et libéré la classe ouvrière, même si on explique que c'était pour échanger contre une domination pire, etc. Bon, je ne vais pas faire ici, évidemment, le discours habituel sur l'abomination soviétique dont tout le monde a l'habitude. C'est que ça pose la question de la création de cette internationale de remplacement. C'est-à-dire, on ne peut plus continuer avec ces partis aux mains rouges du sang des paysans et de la surexploitation des ouvriers. Donc, la défaillance du mouvement social-démocrate international pose la question d'autres structures. Et ça, ça se décide à partir de 1919. Évidemment, il y a été réfléchi un peu avant, hein, entre deux occupations quand même pour repousser les Blancs. À partir de janvier 1919 se pose évidemment la question de ce regroupement, de cette organisation, de cette fédération de toutes les avant-gardes révolutionnaires qui sont en plus extrêmement diverses. Il faut voir ce qu'a été la tâche historique de constitution des partis communistes, c'est-à-dire dans quelque chose qui relevait à la fois du parti de masse, parce qu'il y avait toute une fraction des anciens partis qui étaient des partis de masse, qui étaient prêts à basculer, et puis de toute une partie, une petite partie de groupuscules, d'associations, etc., tentés d'ailleurs dans la conjoncture extrêmement difficile de 1917 ou 1918-1920 par le gauchisme, c'est-à-dire par cette précipitation révolutionnaire, par ce refus de tout compromis, qui ont été un élément majeur d'ailleurs de la réflexion qui aboutit à la création des partis communistes. Et donc, en janvier 1919, le 24 janvier, est lancé par 8 organisations et partis qui sont déjà communistes. Hein, je n'ai pas le temps de donner le détail. Les gens iront faire leur petite vérification. Ces 8 mouvements invitent 39 partis et groupements, associations, partisans de la dictature du prolétariat sous la forme du pouvoir des soviets. Donc, ils se réclament explicitement du marxisme et de ce qui devient aussi le marxisme-léninisme. Je rappelle que la dictature du prolétariat, c'est un concept qu'a d'abord développé Marx. Et donc, c'est un appel à la constitution d'un congrès constitutif de l'internationale de remplacement, qui ne s'appellera plus internationale socialiste, mais internationale communiste. Il faut comprendre d'ailleurs que c'est dans ce processus qui va de la guerre à la constitution de l'internationale que le terme de social-démocrate a pris directement son sens contemporain, c'est-à-dire une idéologie qui fait triompher le réformisme et qui dit que c'est mieux de s'arranger avec le capitalisme, évidemment, d'entrer dans des complications révolutionnaires absolument abominables et qui sont pires que tout. Bien.
Début 1919, en Allemagne, c'est dans un bain de sang que le gouvernement socialiste de la toute jeune République de Weimar fait écraser la révolution communiste des spartakistes.
En janvier 1919, on peut encore penser, bien que la révolution de Berlin soit déjà bien avancée dans la répression, les choses laissent percevoir des possibilités à l'échelle de l'Europe. Je rappelle que en 1919, il va y avoir la tentative en Hongrie, que tout n'est pas encore terminé en Allemagne, où d'ailleurs ça se fera définitivement entre mars et mai 1919. Déjà, quand le premier congrès se réunit, c'est après l'échec de la révolution de Berlin, et il y a en fait un parti communiste qui est un parti de masse et qui a été formé très logiquement le plus tôt fin 1918, c'est-à-dire le parti communiste allemand qui est déjà une force réelle. Et puis, à partir du premier congrès, sur lequel j'insisterai pas, se créent les premiers partis communistes après l'entrant allemand fin 18. À partir de mars 1919, donc du premier congrès, se crée une série de partis communistes. Et que se pose la question du deuxième congrès qui va aller au-delà de la simple création de l'internationale communiste, création unanime, puisque tous les délégués, mais qui sont à l'époque essentiellement des délégués étrangers et immigrés en Russie, il n'y a pas de représentation marquante des partis tels qu'ils existent. Je veux dire de représentants étrangers qui se pointent à Moscou, ce qui n'est pas le cas du deuxième congrès. Un deuxième congrès d'ailleurs qui semble se tenir dans des conditions plus favorables, parce que c'est le moment, juillet-août 1920, où les troupes bolcheviques, où l'armée rouge est aux portes de Varsovie, et où ça redonne un petit espoir. Petit espoir, comme on le sait, qui sera anéanti grâce l'aide militaire apportée par la France, co-auteur éminent de la politique de cordon sanitaire, par l'aide apportée par la France à l'armée polonaise, absolument nulle. Ce n'est pas polémique, j'ai fait toute une série de travaux sur l'état de la Pologne qui atteste que, en effet, sans la France, ça serait passé autrement. Quoi qu'il en soit, le congrès, il se tient là dans des conditions telles que la question concrète de la fondation des partis communistes, là on a une trentaine de partis communistes qui sont réunis pour discuter du rôle du parti et de ce qu'on va faire avec ces partis pour constituer ces partis. Parce que l'international existe, mais les partis, il n'y en a pas beaucoup encore qui existent. Et ça se fait, je dirais, autour de deux textes fondateurs. D'une part, un texte de Lénine, que je recommande d'ailleurs, dans cette période de très vif mécontentement, de profond mécontentement en France, où la crise, ça ne se voit pas encore beaucoup, mais quand même ouvre historiquement la question de transformation profonde. Le texte « La maladie infantile du communisme, le gauchisme », écrit par Lénine en avril-mai 1920, donc très peu avant la réunion du deuxième congrès. Le texte d'ailleurs est distribué à tous les congressistes, Il concerne au premier plan le Parti communiste allemand, qui est pas mal caractérisé dans la situation d'isolement où l'a mis la majorité, SPD, très concernée par le gauchisme. Et puis, les fameuses 21 conditions, qui sont d'ailleurs complétées en fin de congrès, parce que après le départ des deux délégués français, Luc Olivier Frossard et Marcel Cachin, qui s'en vont parce que la création du Parti communiste français, vu l'état de la SFIO, ça ne relève pas de la totale évidence.
Avant d'aller plus loin, voilà la liste des 21 conditions émises par les bolcheviks en juillet 1920 au deuxième congrès de l'Internationale communiste. 21 conditions pour adhérer à cette troisième internationale créée donc à l'appel de Lénine. 1. La propagande et l'agitation est subordonnée par l'Internationale communiste et le comité central du parti. 2. Élimination des éléments réformistes et centristes au sein du parti qui doit être privilégié des travailleurs. 3. Le parti communiste doit envisager des actions illégales, voire faire une guerre civile pour remplir le devoir révolutionnaire. 4. Propagande communiste, même illégale, au sein des troupes militaires. 5. Action communiste systématique au sein des campagnes. 6. Dénoncer le patriotisme, prôner la révolution anticapitaliste. 7. Rupture avec les centristes et les réformistes. 8. Les partis doivent mener la lutte contre leur gouvernement pour les peuples opprimés. 9. Des noyaux communistes doivent noyauter les syndicats soumis aux partis. 10. Opposition totale à l'Internationale syndicale d'Amsterdam. 11. Les fractions parlementaires de chaque parti doivent être débarrassées de tout dissident. 12. L'organisation du parti est sur une base centraliste et démocratique et prône un fonctionnement disciplinaire. 13. Épuration périodique au sein des partis. 14. Soutien sans réserve des républiques socialistes soviétiques. 15. Obligation de réviser les programmes des partis pour qu'ils soient conformes à l'Internationale communiste. 16. Toutes les décisions de l'Internationale doivent être exécutées. 17. Changement de nom obligatoire. Tous les partis doivent se nommer Parti communiste plus le nom du pays. 18. La presse du pays doit imprimer les décisions de l'Internationale communiste. 19. Les partis souhaitant adhérer à l'Internationale doivent se prononcer le plus tôt possible dans des congrès extraordinaires. C'est ce qui se passera donc à Tours en 1920. 20. Les deux tiers du comité central de chaque parti doivent être composés des communistes approuvant l'Internationale. 21. Exclusion des membres qui n'acceptent pas les clauses. Une 22e condition, rajoutée au congrès de 1922, interdit toute adhésion à la franc-maçonnerie jugée bourgeoise. Et donc, au congrès de Tours de 1920, ces 21 conditions filtrent l'adhésion de socialistes à la Léon Blum, de ces socialistes dits « aux mains rouges » qui ont totalement collaboré avec la grande bourgeoisie dans la gestion de la guerre de 14-18.
Les 21 conditions d'admission, d'abord il faut les lire, toutes ces choses qu'on a finalement oubliées parce que tout le monde nous a juré depuis des décennies que le communisme était mort, et donc ces fameuses conditions d'admission. C'est une rupture totale, et dont on comprend dans un pays comme la France à quel déchirement elle a pu mener, quel déchirement elle a pu éclairer, parce qu'on avait là la quintessence du parti de collaboration de classe. Ça durait depuis les années 1890. Ça n'avait pas été amélioré du tout par la création de la SFIO, et la Première Guerre mondiale avait laissé se déployer tout ce que les bolcheviks et leurs amis des minorités, avaient établi, je dirais, de 1914 à 1917 et au-delà. De quoi il s'agit ? Moi, de toute façon, mon rôle d'historienne, c'est pas de dire on a eu raison ou on a eu tort. Mais, tout de même, je suis confronté, c'est malheureux, je suis confronté à une vision de l'histoire qui est finalement une vision morale, moralisatrice, qui va toujours dans le sens de la condamnation du communisme comme abomination. Mais la discipline de l'impérialisme contre les masses populaires et contre la première révolution communiste, elle imposait une discipline de fer. Est-ce qu'il était objectivement possible de réaliser des jeunes partis par une espèce de motion de synthèse entre ceux qui avaient couvert la totalité de la guerre en faisant semblant même éventuellement d'avoir déserté le bateau en 1917, la totalité de la guerre, qui était le socialisme d'Albert Thomas, de Samba, de Blum, qui avait participé au gouvernement, qui avait fait trimer les travailleurs, qui avait jusqu'au bout soutenu les buts de guerre, qui n'étaient pas exclusivement tout de même des buts de guerre de l'an 2. Est-ce qu'il était possible de les faire coexister ensemble? Tout ce congrès est tourné, aussi évidemment dur que ce soit, et on imagine d'ailleurs à quel point ça a pu être dur partout, sur ce qui était une condamnation totale de l'action menée, grosso modo, entre les années 1880 et 1914. Alors, comme on parle toujours de ce qu'on ne connaît pas, les 21 conditions, ça me fait un petit peu penser à Munich. Non pas que ça ait quelque rapport avec le contenu de Munich, mais Munich, tout le monde en cause et personne ne sait ce qu'il y a dedans. Je dirais qu'il en est de même pour les 21 conditions qui prévoient dans tous les domaines une rupture totale avec tout ce qui a existé et qui allait évidemment poser des problèmes partout et notamment en France. C'est-à-dire pas de commune mesure, pas de motion de synthèse entre les réformistes et les révolutionnaires. Ce qui voulait dire tout plein de choses, c'est-à-dire des partis nouveaux qui étaient partisans de la dictature du prolétariat et pas de la synthèse bourgeoise ou du strapontin, qui devaient mener avec la plus grande énergie la lutte anticoloniale. Alors ça, notamment en France, je l'ai déjà dit, je le redis, conduire des partis qui avaient de fait, depuis 1890, adhéré avec des chipotis à toutes les conditions de la conquête coloniale et qui avaient été conquis par l'école républicaine à l'idée que, somme toute, de gauche ou de droite, entre Clémenceau et Ferry en 1885, on était tous d'accord sur le fait que la colonie, ça allait civiliser les populations barbares, qu'on allait conduire ou qu'on conduisait à la civilisation, il faut savoir ce que ça a signifié. La preuve, c'est que la question n'était toujours pas résolue en 1960, où la SFIO soutenait toujours les guerres coloniales. Alors ça supposait la lutte antimilitariste à l'époque, c'était un des piliers du patriotisme, enseigné par la même école républicaine et générale jusqu'à l'âge de 13 ans à l'époque. Ça signifiait faire des partis qui soient des partis communistes. Donc, éliminer du parti, naturellement pas éliminer physiquement. De toute façon, Staline et ceux qui l'ont précédé sont supposés s'être débarrassés par le fer et par le feu ou par la balle dans la nuque de tous leurs adversaires ou ennemis. Ça supposait éliminer les centristes de partout. C'est-à-dire, voilà, Longuet, mais derrière Longuet, il y avait des gens comme Léon Blum, l'ensemble de ceux qui avaient conduit le parti sur les terres de 1914. Ça signifiait être d'accord sur l'essentiel pour pouvoir agir en force révolutionnaire, c'est-à-dire adopter le centralisme démocratique, c'est-à-dire l'exécution des décisions prises. Ce qui avait été pratiqué finalement par les bolcheviks, qui à un moment donné supportaient bien les tendances, mais qui à un autre moment donné de l'histoire ont considéré que ces tendances étaient un obstacle sur la voie de l'efficacité révolutionnaire, ce centralisme démocratique qui était absolument contradictoire avec ce qui existait, y compris évidemment faire triompher les communistes à l'échelon parlementaire. Or, qu'est-ce qui, avant même 1905 et depuis 1905 plus que jamais, avait caractérisé le Parti socialiste, c'était que les parlementaires socialistes, c'est ce qu'ils voulaient, qu'ils se moquaient comme d'une guigne du parti, et par conséquent, ce que les bolcheviks ont appelé le crétinisme parlementaire régnait. C'est tellement vrai qu'il a régné en même temps que les partis socialistes. Ce qu'on appelle finalement, à l'époque contemporaine, les éléphants du parti, ont toujours montré que le parti n'existait pas en dehors d'un certain nombre de ses dirigeants qui, en devenant même députés, signaient leur alliance avec les classes dirigeantes, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Dans un texte qui est visible sur mon site et qui porte sur le comportement de Léon Blum avant 36, qui avait toujours collaboré avec la bourgeoisie. Il faut le savoir, le dirigeant communiste par essence, on le voit bien dans tous les types d'archives d'ailleurs, il est lié à sa classe d'origine. C'est un prolo, d'ailleurs c'est tout à fait caractéristique. Moi qui ai beaucoup fréquenté les archives policières, j'ai toujours été très frappé par le fait qu'il y avait une habitude de la police des renseignements généraux, qui est naturellement maintenue, c'était de qualifier les membres des partis par leurs sources de revenus. Hein? Et ben, pour les communistes, il y avait toujours marqué « vie du revenu de son travail ». Il n'y a quasiment pas un dirigeant socialiste, a fortiori Léon Blum, qui était dans ce cas. Mais pour qu'on comprenne, ceux qui verront le documentaire sur Strauss-Kahn, ils se disent « pas possible, un type si riche, puis qu'à un moment épouse une femme immensément riche. Mais qu'est-ce qu'il a de commun avec la classe ouvrière, avec les employés, hein, même si on n'a plus beaucoup de classe ouvrière ? Rien. Mais ça ne date pas de Strauss-Kahn. Ça date de l'histoire de la SFIO. Donc, c'était une rupture vraiment à tout point de vue qui, de manière extérieure, peut être considérée vraiment comme une atteinte à la démocratie. Moi, je pose une question. Est-ce qu'il était possible aux forces communistes d'envisager quelque chose qui ne fût pas la rupture que finalement Lénine avait présentée comme inéluctable depuis 1914?
Le socialisme, ce n'est point une doctrine rigide.
Ludovic Oscar Frossard
y aurait trouvé dans quelques formules sommaires son expression définitive.
Secrétaire général de la SFIO de 1918 à 1920, puis secrétaire général de la section française de l'Internationale communiste de 1921 à 1923.
Certes, nous pensons que le mouvement d'histoire et l'évolution des sociétés industrielles nous acheminent peu à peu vers un ordre social nouveau où seront appréhendés sous la forme collective des grands instruments de travail et d'échange. Nous affirmons que parti de classe qui s'oppose à tous les autres, qui établit entre eux sinon des différences de nature, du moins des différences de degré, le parti de la classe ouvrière doit conquérir le pouvoir politique et à travers la réalisation progressive de notre idéal, selon le rythme des circonstances, nous conduire peu à peu du gouvernement des hommes à l'administration des choses.
Un ébranlement pareil, ça supposait d'être apte à mener, si nécessaire, la lutte illégale. Lutte légale, bien sûr, il faut savoir que pour les partis communistes, même dans un pays comme la France, hein, la lutte légale, elle a été quand même réduite à pas grand-chose, hein, tant la répression anticommuniste a été forte. Quiconque a vu des archives de la préfecture de police ou des archives F7 de police générale le sait. Et que dire d'un pays comme l'Allemagne, où le SPD a mené de manière permanente une véritable guerre contre le KPD.
SPD, Parti social-démocrate d'Allemagne. KPD, Parti communiste d'Allemagne. Et jusqu'au bout, le SPD combattra le KPD, quitte à favoriser l'ascension d'Hitler.
Et a été habilité à mener cette guerre d'autant plus aisément qu'il avait la direction d'un certain nombre de Länder, puisque je rappelle qu'en Allemagne, il y a deux structures. Hein. Il y a la structure de l'ensemble du Reich, la structure centralisée, qui donne le Reichstag, et puis il y a la structure supposée être fédérale, qui n'a jamais empêché une énorme centralisation, évidemment, autour du cœur prussien des années 1860-1871, c'est-à-dire il y a les Länder. Le SPD détient à certains moments, tout le temps, de 1920 à 1932, à certains moments à l'échelle du Reich, mais de moins en moins, parce qu'évidemment, il a fait une politique tellement favorable à la droite qu'il n'est pas finalement allé souvent au gouvernement, quand même, de temps en temps, hein, voilà, dans les années 20. Et donc, il détient le Land de Prusse. Il a donc à certains moments à la fois la maîtrise du Reich, quand il y a pas trop souvent des chanceliers socialistes, et puis la maîtrise du Land. Je le rappelle, je l'ai peut-être dit, mais je trouve qu'on ne le dira jamais assez. Hitler a trouvé d'abord Göring, après son coup d'État contre la Prusse de juillet 32, accepté par le SPD alors que le KPD demandait expressément de réaliser la grève générale comme en 1920 pour chasser le putschiste nazi. Le SPD a dit non, pas du tout, c'est pas du tout nécessaire, on va attendre des prochaines élections. Les prochaines élections, c'était celle de novembre 32 dans les conditions que l'on sait, et puis après celle de 33. Donc, ils ont le Land. Que fait Göring? Il trouve les listes du ministère de l'Intérieur sur lesquelles les nazis vont avoir l'ensemble des militants à arrêter au moment propice de l'incendie du Reichstag qui achève évidemment le processus électoral nécessaire aux hitlériens. Il faut avoir ceci en tête, mais en France, il y a eu des conditions de lutte illégale de fait. Un militant dans les années 20, qui était connu comme militant syndical dans une entreprise, il était chassé. L'histoire des militants communistes, c'est l'histoire des listes noires. C'est-à-dire, de passage, ça allait dans les périodes pas trop graves de crise, parce que c'était souvent des ouvriers qualifiés et on finissait par trouver une autre tôle, comme on disait, mais c'était pas toujours le cas, c'est-à-dire qu'ils passaient d'usine en usine. Donc, cette lutte menant l'action légale là où elle était possible et l'action illégale, tout ceci, en fait, faisait rupture avec la situation qui était issue des années 1890. Et c'est, bien entendu, sur base, je dirais, d'une alliance étroite avec l'international, c'est-à-dire avec Moscou, hein, qui a d'ailleurs été une des conditions ajoutées après le départ de Frossard et Cachin, c'est que la presse devait être communisée, comme tout le reste, hein, comme la presse communiste devait être communiste, ce qui supposait d'évincer évidemment les éléments centristes, et qui exigeait aussi que les motions de l'international fussent publiées par la presse du parti.
Le congrès de Tours de 1920 aura donc pour conséquence non seulement la scission de la SFIO qui donnera naissance au Parti communiste français, mais cette scission aura aussi pour conséquence la division de la CGT dont certains leaders ont eux aussi collaboré avec le patronat pour l'Union sacrée. Les communistes vont donc créer une nouvelle CGT, la CGT-U, U comme unifiée, et ce conformément aux 21 conditions des bolcheviques.
Il y avait des clauses syndicales, c'est-à-dire mener la lutte révolutionnaire, mener la lutte syndicale, ça représentait même deux conditions. Dans les conditions de la France, je dirais que ça relevait du prodige, parce que on est dans une CGT qui a entièrement couvert la guerre, dont le dirigeant qui a cautionné la guerre est toujours le dirigeant de 1918. Et d'ailleurs, il faut bien le dire, fin décembre 1920, il y a eu une majorité pour la transformation du parti en parti communiste, et elle a été bien arrangée par le fait qu'il n'y avait pas les représentants syndicaux. Syndicaux en tant que tels, il n'y avait pas la CGT, parce que la CGT était absolument opposée à l'adhésion à la Troisième Internationale. C'est-à-dire que sur tous les points, la création des partis communistes, et notamment du Parti communiste français, constituait une rupture historique. D'ailleurs, c'était très clair. C'était une des conditions. Il fallait envisager une rupture complète, une rupture sans réserve et absolue avec les conditions qui avaient régné à l'intérieur de la SFIO et qui avaient fait de la SFIO une espèce de modèle, finalement, de ce que décrivait déjà Engels dans sa préface de 1892, c'est-à-dire d'une collaboration entre le patronat, l'état de la bourgeoisie, l'état de ce patronat et les dirigeants politiques. C'est ça la réalité, parce que l'objectif que se fixaient les nouveaux partis communistes, c'était de réaliser ce que les bolcheviks étaient en passe d'obtenir quand même à l'été 1920. À l'été 1920, il devenait improbable que les soviets fussent dégommés. Improbable. Et par conséquent, alors j'ai oublié évidemment la condition sur le soutien de la révolution bolchevique, laquelle Russie bolchevique allait porter à bout de bras des mouvements qui, au départ, étaient plus ou moins faibles. Le parti français n'était pas parmi les plus faibles, hein, je dirais que les plus faibles, parce qu'il n'était pas issu de partis de masse. C'était les partis anglais et américains, qui d'ailleurs ne s'en sont jamais remis, même à une époque où le communisme était tout de même plus florissant. Malheureusement, cette question ne devrait être traitée sur un plan exclusivement historique. Mais finalement, quand on parle de communisme, on est aujourd'hui sans arrêt obligé de se justifier. Je pose une question historique, qui n'est pas une question morale, qui n'est pas une question de jugement personnel. Est-ce que les objectifs de la révolution bolchevique, c'est-à-dire de la conquête de l'appareil d'État, je le rappelle, le marxisme et le léninisme après lui ont expliqué qu'on ne pouvait pas faire la révolution, on ne pouvait pas changer le mode de production sans évincer l'État qui était l'État des classes dirigeantes. Parce que un État, c'est une structure de contraintes, c'est une dictature. L'État de la bourgeoisie était une dictature de la bourgeoisie et il s'agissait d'établir ce que Marx avait appelé la dictature du prolétariat. Il fallait entendre par dictature du prolétariat, dictature des couches populaires qui, objectivement, évidemment, ont été concentrées autour du prolétariat parce qu'il ne faut quand même pas se faire l'illusion. Ce qui a acquis le succès de la révolution soviétique, c'est essentiellement le noyau des 3 millions d'ouvriers ultra minoritaires qui ont dirigé la révolution, qui ont été le fer de lance de l'armée rouge, qui a réussi à écraser les forces extérieures qui avaient envahi le pays sans déclarer la guerre. Et dans ces conditions, évidemment, cette Russie soviétique, ce qu'elle proposait au Parti communiste, c'était de faire la même chose chez eux, parce que l'objectif, c'était la conquête du pouvoir d'État. Personne ne ferait la révolution sans conquête du pouvoir d'État. D'ailleurs, je pose une question, où y a-t-il eu une transformation révolutionnaire sans conquête préalable du pouvoir d'État? Il y en a pas. Voilà, on peut prendre n'importe quel pays qui est connu depuis, subsistante ou pas subsistante, une révolution. Toute révolution, Marx ne l'avait pas inventée, passait par une conquête du pouvoir de l'État. Cette conquête du pouvoir de l'État, elle exigeait de se débarrasser de l'ensemble de ceux qui avaient contracté alliance avec les forces des classes dirigeantes. Et ça signifiait, bien entendu, dans le nouveau parti, de n'accorder de poste de direction qu'à ceux qui, avant le deuxième congrès de l'été 1920, avait pris position pour la transformation des partis socialistes en partis communistes, avec évidemment toutes les conditions y afférentes. Donc, conquête du pouvoir d'État, rupture avec les centristes, la tâche n'était pas mince au sein du parti socialiste. Évidemment, il y avait un aspect très positif au début, et d'ailleurs qui a fonctionné, parce que il y a eu majorité fin décembre 1920 pour la fondation du Parti communiste, mais il faut bien voir que les conditions d'exercice du Parti communiste était littéralement impossible à supporter par tous ceux qui avaient été les dirigeants du Parti socialiste, outre ceux qui, ont les trémolos dans la voix dit qu'il fallait maintenir la vieille maison, c'est-à-dire en fait consacrer la scission, hein, puisqu'ils ne se sont pas pliés à la décision majoritaire. Quand vous ne vous pliez pas à la décision majoritaire, faites une scission. Bon, autour de Blum et des autres. Au départ, le jeune parti, finalement, il a eu, enfin, une partie substantielle du mouvement antérieur, parce que les éléments qui avaient animé le parti étaient les éléments qui, finalement, avaient joué un rôle très, très important dans la rupture depuis 1917 et imposé le départ des socialistes du gouvernement français. Mais les conditions d'exercice, allais-je dire, étaient des conditions tellement difficiles qu'elles étaient incompatibles avec le statut de parlementaire pépère et bien payé de l'avant-création du parti. Ce qui veut dire qu'entre 1920-21 et 1924, il y ait eu des ralliements majeurs au Parti socialiste. Scissionniste est maintenu, parce que les conditions n'étaient pas comparables. Qu'est-ce que c'était qu'être militant communiste ? C'était subir la ségrégation, l'exclusion, les difficultés toute sa vie. Est-ce qu'on s'imagine ce qu'a pu représenter cette situation qui n'est envisageable que dans une période de tension aiguë générée par des crises ou des guerres? Ce qui était le cas évidemment de la clôture de la guerre qui s'est en plus accompagnée d'une crise sévère parce que de 1920-1922, la crise de reconversion a été considérable et pas seulement aux États-Unis, dans l'ensemble des pays confrontés à la fin de l'économie de guerre. Donc voilà, qu'est-ce qu'on proposait aux militants communistes ? On leur proposait de changer le monde, mais dans des conditions, finalement, dans les sociétés capitalistes maintenues, dans des conditions effrayantes et décourageantes.
Jusqu'à ce que Mitterrand lui fasse la peau en le trahissant au début des années 80, le Parti communiste français sera pendant des décennies un très puissant parti populaire, un parti rejoint par des armées de militantes et de militants auxquels les Français doivent énormément. Retraite par répartition, services publics dont la sécurité sociale et donc l'hôpital public, la culture populaire, etc., etc. La liste de ce qu'on doit aux cocos est interminable. Des conquêtes sociales, notamment héritées du combat des communistes contre les nazis, les Rouges seront le fer de lance de la résistance française. Merci à Annie Lacroix-Riz que tu retrouveras au prochain épisode de cette série sur le Congrès de Tours, série que tu pourrais écouter sur notre site, polymix-et-la-voix-off.com, avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut. Radio G. Just wanna tell you. 101.5 FM.
Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr. Activez vos synapses.